la pouraille, aimait passionnément une femme, comme on va le voir, fil de soie, philosophe égoïste, qui volait pour se faire un sort, ressemblait beaucoup à Paccard, le séide de Jacques Collin, qui s'était enfui avec Prudence Servien, riches tous deux de 750 000 francs. Il n'avait aucun attachement, il méprisait les femmes et n'aimait que fil de soie. Quant au Biffon, il tirait, comme on le sait maintenant, son surnom de son attachement à la biffe. Or, ces trois illustrations de la haute pègre avaient des comptes à demander à Jacques Collin, comptes assez difficiles à établir. Le caissier savait seul combien d'associés survivaient, quelle était la fortune de chacun. La mortalité particulière à ces mandataires était entrée dans les calculs de Trompe-la-Mort, au moment où il résolut de manger la grenouille au profit de Lucien. En se dérobant à l'attention de ses camarades et de la police pendant 9 ans, Jacques Collin avait une presque certitude d'hériter, au terme de la charte des grands fanandels, des 2/3 de ses commettants. Ne pouvait-il pas d'ailleurs alléguer des paiements faits aux fanandels fauchés? Aucun contrôle n'atteignait enfin ce chef des grands fanandels. On se fiait absolument à lui par nécessité, car la vie de bête fauve que mènent les forçats impliquait, entre les gens comme il faut de ce monde sauvage, la plus haute délicatesse. Sur les 100 000 écus du dépôt, Jacques Collin pouvait peut-être alors se libérer avec 100 000 francs. En ce moment, comme on le voit, la Pouraille, un des créanciers de Jacques Collin, n'avait que 90 jours à vivre. Nanti d'une somme sans doute bien supérieure à celle que lui gardait son chef, la Pouraille devait d'ailleurs être assez accommodant. Un des diagnostics infaillibles auxquels les directeurs de prison et leurs agents, la police et ses aides, et même les magistrats instructeurs, reconnaissent les chevaux de retour, c'est-à-dire ceux qui ont déjà mangé les gourganes, espèces de haricots destinées à la nourriture des forçats de l'État, et leur habitude de la prison. Les récidivistes en connaissent naturellement les usages, ils sont chez eux, ils ne s'étonnent de rien. Aussi Jacques Collin, en garde contre lui-même, avait-il jusqu'alors admirablement bien joué son rôle d'innocent et d'étranger, soit à la force, soit à la conciergerie. Mais abattu par la douleur, écrasé par sa double mort, car dans cette fatale nuit il était mort 2 fois, il redevint Jacques Collin. Le surveillant fut stupéfait de n'avoir pas à dire à ce prêtre espagnol par où l'on allait au préau. Cet acteur si parfait oublia son rôle. Il descendit la vis de la tour Bombec en habitué de la conciergerie. Bibi Lupin a raison, se dit en lui-même le surveillant. C'est un cheval de retour, c'est Jacques Collin. Au moment où Trompe-la-Mort se montra dans l'espèce de cadre que lui fit la porte de la tourelle, les prisonniers, ayant tous fini leurs acquisitions à la table en pierre, dite de Saint-Louis, se dispersaient sur le préau, toujours trop étroit pour eux. Le nouveau détenu fut donc aperçu par tous à la fois, avec d'autant plus de rapidité que rien n'égale la précision du coup d'œil des prisonniers, qui sont tous dans un préau comme l'araignée au centre de sa toile. Cette comparaison est d'une exactitude mathématique, car l'œil étant borné de tous côtés par de hautes et noires murailles, le détenu voit toujours, même sans regarder, la porte par laquelle entrent les surveillants, les fenêtres du parloir et de l'escalier de la tour Bombec, seules issues du préau. Dans le profond isolement où il est, tout est accident pour l'accusé, tout l'occupe. Son ennui, comparable à celui du tigre en cage au jardin des plantes, décuple sa puissance d'attention. Il n'est pas indifférent de faire observer que Jacques Collin, vêtu comme un ecclésiastique qui ne s'astreint pas au costume, portait un pantalon noir, des bas noirs, des souliers à boucles en argent, un gilet noir et une certaine redingote marron foncé dont la coupe trahit le prêtre, quoi qu'il fasse, surtout quand ces indices sont complétés par la taille caractéristique des cheveux. Jacques Collin portait une perruque superlativement ecclésiastique et d'un naturel exquis. « Tiens, tiens !» dit la Pouraille au Biffon. Mauvais signe. Un sanglier. Comment s'en trouve-t-il un ici? C'est un de leurs trucs. Un cuisinier.
Espion.
D'un nouveau genre, répondit Fil de Soie. C'est quelque marchand de lacets.
La maréchaussée d'autrefois.
Déguisé, qui vient faire son commerce.
Le gendarme a différents noms en argot. Quand il poursuit le voleur, c'est un marchand de lacets. Quand il l'escorte, c'est une hirondelle de la grève. Quand il le mène à l'échafaud, c'est le hussard de la guillotine. Pour achever la peinture du préau, peut-être est-il nécessaire de peindre en peu de mots les deux autres fanandelles. C'est l'errier, dit l'Auvergnat, dit le père Rallot, dit le rouleur, enfin Fil de Soie. Il avait 30 noms et autant de passeports. Ne sera plus désigné que par ce sobriquet, le seul qu'on lui donna dans la haute pègre. Ce profond philosophe, qui voyait un gendarme dans le faux prêtre, était un gaillard de 5 pieds 4 pouces, dont tous les muscles produisaient des saillies singulières. Il faisait flamboyer, sous une tête énorme, de petits yeux couverts, comme ceux des oiseaux de proie, d'une paupière grise, mate et dure. Au premier aspect, il ressemblait à un loup, par la largeur de ses mâchoires, vigoureusement tracées et prononcées. Mais tout ce que cette ressemblance impliquait de cruauté, de férocité même, était contrebalancé par la ruse, par la vivacité de ses traits, quoique sillonnés de marques de petites véroles. Le rebord de chaque couture, coupé net, était comme spirituel. On y lisait autant de railleries. La vie des criminels, qui implique la faim et la soif, les nuits passées au bivouac des quais, des berges, des ponts et des rues, les orgies de liqueurs fortes, par lesquelles on célèbre les triomphes, avait mis sur ce visage comme une couche de vernis. À 30 pas, si Fil de Soie se fût montré au naturel, un agent de police, un gendarme, eût reconnu son gibier. Mais il égalait Jacques Collin dans l'art de se grimer et de se costumer. En ce moment, Fil de Soie, en négligé comme les grands acteurs qui ne soignent leur mise qu'au théâtre, portait une espèce de veste de chasse où manquaient les boutons, et dont les boutonnières dégarnies laissaient voir le blanc de la doublure, de mauvaises pantoufles vertes, un pantalon de nankin devenu grisâtre, et sur la tête une casquette sans visière, par où passaient les coins d'un vieux madras à barbe, sillonné de déchirures et lavé. À côté de Fil de Soie, le Biffon formait un contraste parfait. Ce célèbre voleur, de petite stature, gros et gras, agile, au teint livide, à l'œil noir et enfoncé, vêtu comme un cuisinier, planté sur 2 jambes très arquées, effrayé par une physionomie où prédominaient tous les symptômes de l'organisation particulière aux animaux carnassiers. Fil de Soie et le Biffon faisaient la cour à la pouraille, qui ne conservait aucune espérance. Cet assassin récidiviste savait qu'il serait jugé, condamné, exécuté, avant 4 mois. Aussi Fil de Soie et le Biffon, amis de la pouraille, ne l'appelaient-ils pas autrement que le chanoine, c'est-à-dire chanoine de l'abbaye de Montaregret. On doit facilement concevoir pourquoi Fil de Soie et le Biffon câlinaient la pouraille. La pouraille avait enterré 250 000 francs d'or, sa part du butin, fait chez les époux Crottat, en style d'acte d'accusation. Quel magnifique héritage a laissé à 2 fanandelles, quoique ces 2 anciens forçats dussent retourner dans quelques jours au bagne. Le Biffon et Fil de Soie allaient être condamnés pour des vols qualifiés, c'est-à-dire réunissant des circonstances aggravantes, à 15 ans, qui ne se confondraient point avec 10 années d'une condamnation précédente qu'ils avaient pris la liberté d'interrompre. Ainsi, quoiqu'ils eussent l'un 22 et l'autre 26 années de travaux forcés à faire, ils espéraient tous deux s'évader et venir chercher le tas d'or de la pouraille. Mais le 10 000 gardait son secret. Il lui paraissait inutile de le livrer tant qu'il ne serait pas condamné. Appartenant à la haute aristocratie du bagne, il n'avait rien révélé sur ses complices. Son caractère était connu. Monsieur Popinot, l'instructeur de cette épouvantable affaire, n'avait rien pu obtenir de lui. Ce terrible triumvirat stationnait en haut du préau, c'est-à-dire au bas des pistoles. Fil de soie achevait l'instruction d'un jeune homme qui n'en était qu'à son premier coup, et qui, sûr d'une condamnation à 10 années de travaux forcés, prenait des renseignements sur les différents prés. « Eh bien, mon petit, » lui disait sentencieusement Fil de soie, au moment où Jacques Collin apparut, « la différence qu'il y a entre Brest, Toulon et Rochefort, la voici. « Voyons, mon ancien, » dit le jeune homme avec la curiosité d'un novice. Cet accusé, fils de famille sous le poids d'une accusation de faux, était descendu de la pistole voisine de celle où était Lucien. « Mon fiston, » reprit Fil de soie, « à Brest, on est sûr de trouver des gourganes à la 3e cuillerée, en puisant au baquet. À Toulon, vous n'en avez qu'à la 5e. Et à Rochefort, on n'en attrape jamais, à moins d'être un ancien. » Ayant dit, le profond philosophe rejoignit la pouraille et le biffon, qui, très intrigués par le sanglier, se mirent à descendre le préau, tandis que Jacques Collin, abîmé de douleur, le remontait. Trompe-la-mort, tout a de terribles pensées, les pensées d'un empereur déchu, ne se croyait pas le centre de tous les regards, l'objet de l'attention générale, et il allait lentement, regardant la fatale croisée à laquelle Lucien de Rubempré s'était pendu. Aucun des prisonniers ne savait cet événement, car le voisin de Lucien, le jeune faussaire, par des motifs qu'on va bientôt connaître, n'en avait rien dit. Les trois fanandelles s'arrangèrent pour barrer le chemin au prêtre. « Ce n'est pas un sanglier, » dit la pouraille à Fil de soie. « C'est un cheval de retour. Vois comme il tire la droite. » Il est nécessaire d'expliquer ici, car tous les lecteurs n'ont pas eu la fantaisie de visiter un bagne, que chaque forçat est accouplé à un autre, toujours un vieux et un jeune ensemble, par une chaîne. Le poids de cette chaîne, rivé à un anneau au-dessus de la cheville, est tel qu'il donne au bout d'une année un vice de marche éternel au forçat, obligé d'envoyer dans une jambe plus de force que dans l'autre pour tirer cette manicle. Tel est le nom donné dans le bagne à ce ferment. Le condamné contracte invinciblement l'habitude de cet effort. Plus tard, quand il ne porte plus sa chaîne, il en est de cet appareil comme des jambes coupées, dont l'amputé souffre toujours. Le forçat sent toujours sa manicle. Il ne peut jamais se défaire de ce tic de démarche. En termes de police, il tire la droite. Ce diagnostic, connu des forçats entre eux, comme il l'est des agents de police, s'il n'aide pas à la reconnaissance d'un camarade, du moins la complète. Chez Trompe-la-Mort, évadé depuis 8 ans, ce mouvement s'était bien affaibli. Mais par l'effet de son absorbante méditation, il allait d'un pas si lent et si solennel que, quelque faible que fût ce vice de démarche, il devait frapper un œil exercé comme celui de la pouraille. On comprend très bien d'ailleurs que les forçats, toujours en présence les uns des autres au bagne, et n'ayant qu'eux-mêmes à observer, est étudié tellement leur physionomie qu'ils connaissent certaines habitudes qui doivent échapper à leurs ennemis systématiques, les mouchards, les gendarmes et les commissaires de police. Aussi, fût-ce à un certain tiraillement des muscles maxillaires de la joue gauche, reconnu par un forçat, qui fut envoyé à une revue de la Légion de la Seine, que le lieutenant-colonel de ce corps, le fameux Coignard, dut son arrestation. Car malgré la certitude de Bibi Lupin, la police n'osait croire à l'identité du comte Pontis de Sainte-Hélène et de Coignard. « C'est notre dabe, notre maître, » dit Fil de soie, en ayant reçu de Jacques Collin ce regard distrait que jette l'homme abîmé dans le désespoir sur tout ce qui l'entoure. « Ma foi, oui, c'est Trompe-la-Mort, » dit en se frottant les mains le biffon. « Oh, c'est sa taille, sa carrure. Mais qu'a-t-il fait? Il ne ressemble plus à lui-même. « Oh, j'y suis, » dit Fil de soie. « Il a un plan. Il veut revoir sa tante qu'on doit exécuter bientôt. » Pour se donner une vague idée du personnage que les reclus, les argousins et les surveillants appelle une tante. Il suffira de rapporter ce mot magnifique du directeur d'une des maisons centrales au feu Lord de Durham, qui visita toutes les prisons pendant son séjour à Paris. Ce lord, curieux d'observer tous les détails de la justice française, fit même dresser par feu Samson, l'exécuteur des hautes œuvres, la mécanique, et demanda l'exécution d'un veau vivant pour se rendre compte du jeu de la machine que la Révolution française a illustré. Le directeur, après avoir montré toute la prison, les préaux, les ateliers, les cachots, etc., désigna du doigt un local, en faisant un geste de dégoût. « Je ne mène pas là votre seigneurie, » dit-il, « car c'est le quartier des tentes. »« Oh !» fit Lord Durham. « Et qu'est-ce ?»« C'est le troisième sexe, milord. »«
On va te terrer, » guillotiner, « Théodore, » dit la Pouraille.
« Un gentil garçon, quelle main, quelle toupée, quelle perte pour la société. »
« Oui, Théodore Calvi morfile, mange, sa dernière bouchée, » dit le Biffon.
« Ah, ces largues doivent joliment chigner des yeux, car il était aimé le petit gueux. »«
Te voilà, mon vieux, » dit la Pouraille à Jacques Collin. Et de concert avec ses deux acolytes, avec lesquels il était bras dessus, bras dessous, il barra le chemin au nouveau venu.
« Oh, Dab, tu t'es donc fait sanglier ?» ajouta la Pouraille.
« On dit que tu as poissé nos Philippes !» fit louter nos pièces d'or, reprit le Biffon d'un air menaçant.
« Tu vas nous abouler du Carle !»«
Tu vas nous donner de l'argent !» demanda Fil de Soie. Ces trois interrogations partirent comme trois coups de pistolet.
« Ne plaisantez pas un pauvre prêtre mis ici par erreur, »
reprit machinalement Jacques Collin, qui reconnut aussitôt ses trois camarades.
« C'est bien le son du grelot, si ce n'est pas la frimousse, figure, »
dit la Pouraille, en mettant sa main sur l'épaule de Jacques Collin. Ce geste, l'aspect de ses trois camarades, tirèrent violemment le Dab de sa prostration et le rendirent au sentiment de la vie réelle. Car pendant cette fatale nuit, il avait roulé dans les mondes spirituels et infinis des sentiments en y cherchant une voie nouvelle.
« Ne fais pas de regout sur ton Dab.
N'éveille pas les soupçons sur ton maître, » dit tout bas Jacques Collin, d'une voix creuse et menaçante qui ressemblait assez au grognement sourd d'un lion.
« La raille, la police, est là. Laisse-la couper dans le pont,
donnée dans le panneau.
Je joue la Miss Locke, la comédie, pour un fanandel en fine peugraine,
un camarade à toute extrémité. » Ceci fut dit avec l'onction d'un prêtre essayant de convertir des malheureux et accompagné d'un regard par lequel Jacques Collin embrassa le préau, vit les surveillants sous les arcades et les montra railleusement à ses trois compagnons.
« N'y a-t-il pas ici des cuisiniers ? Allumez vos clairs et remouchez.
Voyez et observez. « Ne me connobrez pas, épargnons le Poitou,
et engantez-moi en sanglier.
Ne me connaissez plus, prenons nos précautions, et traitez-moi en prêtre,
ou je vous effondre, vous, vos largues et votre aubert.
Je vous ruine, vous, vos femmes et votre fortune.
T'as donc taf de nos zigs.
Tu te méfies donc de nous ? Dit Fil de Soie.
Tu viens cromper ta tante.
Sauver ton ami.
Madeleine est parée pour la placarde de Vergne
et prêt pour la place de Grève, dit la Pouraille.
Théodore,
dit Jacques Collin, en comprimant un bond et un cri. Ce fut le dernier coup de la torture de ce colosse détruit.
On va le buter, répéta la Pourraille. Il est depuis 2 mois gerbé à la passe,
condamné à mort. Jacques Collin, saisi par une défaillance, les genoux presque coupés, fut soutenu par ses trois compagnons, et il eut la présence d'esprit de joindre ses mains en prenant un air de componction. La Pouraille et le Biffon soutinrent respectueusement le sacrilège trompe-la-mort, pendant que Fil de Soie courait vers le surveillant en faction à la porte du guichet extérieur qui mène au parloir. Ce vénérable prêtre voudrait s'asseoir,
Donnez une chaise pour lui. » Ainsi, le coup monté par Bibi Lupin manquait. Trompe-la-Mort, de même que Napoléon reconnu par ses soldats, obtenait soumission et respect des trois forçats. Deux mots avaient suffi. Ces deux mots étaient « vos largues et votre Robert, vos femmes et votre argent », le résumé de toutes les affections vraies de l'homme. Cette menace fut pour les trois forçats l'indice du suprême pouvoir. Le Dab tenait toujours leur fortune entre ses mains. Toujours tout puissant au dehors, leur Dab n'avait pas trahi, comme de faux frères le disaient. La colossale renommée d'adresse et d'habileté de leur chef stimula d'ailleurs la curiosité des trois forçats. Car en prison, la curiosité devient le seul aiguillon de ces âmes flétries. La hardiesse du déguisement de Jacques Collin, conservée jusque sous les verrous de la conciergerie, étourdissait d'ailleurs les trois criminels. Au secret depuis 4 jours, je ne savais pas Théodore si près de l'abbaye, dit Jacques Collin. J'étais venu pour sauver un pauvre petit qui s'est pendu là, hier, à 4 heures, et me voici devant un autre malheur. Je n'ai plus d'as dans mon jeu. Pauvre Dab, dit Fil de Soie. Ah, le boulanger, le diable, m'abandonne, s'écria Jacques Collin, en s'arrachant des bras de ses deux camarades et se dressant d'un air formidable. Il y a un moment où le monde est plus fort que nous autres. La cigogne, le palais de justice, finit par nous gober. Le directeur de la conciergerie, averti de la défaillance du prêtre espagnol, vint lui-même au préau pour l'espionner. Il le fit asseoir sur une chaise, au soleil, en examinant tout, avec cette perspicacité redoutable qui s'augmente de jour en jour dans l'exercice de pareilles fonctions, et qui se cache sous une apparente indifférence. « Ah, mon Dieu !» dit Jacques Collin. « Être confondu parmi ces gens, le rebut de la société, des criminels, des assassins !» Mais Dieu n'abandonnera pas son serviteur. Mon cher monsieur le directeur, je marquerai mon passage ici par des actes de charité dont le souvenir restera. Je convertirai ces malheureux. Ils apprendront qu'ils ont une âme, que la vie éternelle les attend, et que s'ils ont tout perdu sur la terre, ils ont encore le ciel à conquérir. Le ciel qui leur appartient au prix d'un vrai, d'un sincère repentir. 20 ou 30 prisonniers, accourus et groupés en arrière des trois terribles forçats, dont les farouches regards avaient maintenu 3 pieds de distance entre eux et les curieux, entendirent cette allocution prononcée avec une onction angélique. « Celui-là, monsieur Gault, dit le formidable Lapouraille, eh bien, nous l'écouterions. » « On m'a dit, reprit Jacques Collin, près de qui monsieur Gault se tenait, qu'il y avait dans cette prison un condamné à mort. On lui lit en ce moment le rejet de son pourvoi, dit monsieur Gault. J'ignore ce que cela signifie, demanda naïvement Jacques Collin en regardant autour de lui. Dieu, est-il simple, dit le petit jeune homme qui consultait naguère Fil de Soie sur la fleur des gourganes des prés. Eh bien, aujourd'hui ou demain, on le fauche, dit un détenu. Fauché ? Demanda Jacques Collin, dont l'air d'innocence et d'ignorance frappa ses trois fanandelles d'admiration. Dans leur langage, répondit le directeur, cela veut dire l'exécution de la peine de mort. Si le greffier lit le pourvoi, sans doute l'exécuteur va recevoir l'ordre pour l'exécution. Le malheureux a constamment refusé les secours de la religion. « Ah, monsieur le directeur, c'est une âme à sauver !» s'écria Jacques Collin. Le sacrilège joignit les mains avec une expression d'amant au désespoir qui parut être l'effet d'une divine ferveur au directeur attentif. « Ah, monsieur, reprit Trompe-la-Mort, laissez-moi vous prouver ce que je suis et tout ce que je puis, en me permettant de faire éclore le repentir dans ce cœur endurci. » Dieu m'a donné la faculté de dire certaines paroles qui produisent de grands changements. Je brise les cœurs, je les ouvre. que craignez-vous? Faites-moi accompagner par des gendarmes, par des gardiens, par qui vous voudrez.
Je verrai si l'aumônier de la maison veut vous permettre de le remplacer, dit Monsieur Gault.
Et le directeur se retira, frappé de l'air parfaitement indifférent, quoique curieux, avec lequel les forçats et les prisonniers regardaient ce prêtre dont la voix évangélique donnait du charme à son baragouin mi-parti de français et d'espagnol.
« Comment vous trouvez-vous ici, monsieur l'abbé ? » demanda le jeune interlocuteur de fil de soie à Jacques Collin.
« Oh, par erreur !» répondit Jacques Collin en toisant le fils de famille. « On m'a trouvé chez une courtisane qui venait d'être volée après sa mort. On a reconnu qu'elle s'était tuée, et les auteurs du vol, qui sont probablement les domestiques, ne sont pas encore arrêtés. Et c'est à cause de ce vol que ce jeune homme s'est pendu. Ce pauvre enfant n'a pas sans doute pu soutenir l'idée d'être flétri par un emprisonnement injuste, répondit Trompe-la-Mort en levant les yeux au ciel.
Oui, dit le jeune homme, on venait le mettre en liberté quand il s'est suicidé.
Quelle chance! Il n'y a que les innocents qui se frappent ainsi l'imagination, dit Jacques Collin. Remarquez que le vol a été commis à son préjudice.
« Et de combien s'agit-il ? » demanda le profond et fin fil de soie.
« De 750 000 francs, répondit tout doucement Jacques Collin. Les trois forçats se regardèrent entre eux, et ils se retirèrent du groupe que tous les détenus formaient autour du soi-disant ecclésiastique. « C'est lui qui a rincé la profonde, la cave de la fille, » dit fil de soie à l'oreille du biffon. « On voulait nous coquer le taf. » Faire peur, pour nos thunes de 5 balles, nos pièces de 100 sous.
Ce sera toujours le dab des grands falandels, répondit la pouraille.
Notre Karl n'est pas des carrés, envolé.
La pouraille, qui cherchait un homme à qui se fier, avait intérêt à trouver Jacques Collin honnête homme.
Or, c'est surtout en prison qu'on croit à ce qu'on espère.
Je gage qu'il esquinte le dab de la cigogne, qu'il enfonce le procureur général, et qu'il va cromper sa tante, sauver son ami, dit fil de soie.
S'il y arrive, dit le biffon, je ne le crois pas tout à fait meg, Dieu, mais il aura, comme on le prétend, bouffardé avec le boulanger, fumé une pipe avec le diable.
L'as-tu entendu crier, le boulanger m'abandonne, fit observer fil de soie.
« Ah !» s'écria la pouraille, « s'il voulait cromper ma Sorbonne, sauver ma tête, quel vioc, vie, je ferai, avec mon fat de Karl, ma part de fortune et mes rondins jaunes servis, et leur volet que je viens de cacher.
Fais sa balle, suis ses instructions, dit fil de soie.
Planches-tu, ris-tu, reprit la pouraille, en regardant son fanandel.
Et tu sinves, simple. Tu seras raide, gerbé à la passe, condamné à mort.
Ainsi, tu n'as pas d'autre lourde à passigner, porte à soulever, pour pouvoir rester sur tes pâturons, pieds, morfiler, te dessaler et goupiner encore, manger, boire et voler, lui répliqua le biffon, que de lui prêter le dos.
V'là qu'est dit, reprit la pouraille.
Pas un de nous ne sera pour le dab à la manque. Pas un de nous ne le trahira. Ou je me charge de l'emmener où je vais.
Il le ferait comme il le dit, s'écria fil de soie.
Les gens les moins susceptibles de sympathie pour ce monde étrange peuvent se figurer la situation d'esprit de Jacques Collin, qui se trouvait entre le cadavre de l'idole qu'il avait adoré pendant 5 heures de nuit et la mort prochaine de son ancien compagnon de chaîne, le futur cadavre du jeune Corse Théodore. Ne fût-ce que pour voir ce malheureux, il avait besoin de déployer une habileté peu commune. Mais le sauver, c'était un miracle, et il y pensait déjà. Pour l'intelligence de ce qu'allait tenter Jacques Collin, il est nécessaire de faire observer ici que les assassins, les voleurs, que tout ce qui peuple les bagnes, ne sont pas aussi redoutables qu'on le croit. à quelques exceptions très rares. Ce gens-là sont tous lâches, sans doute à cause de la peur perpétuelle qui leur comprime le cœur. Leur faculté s'étant incessamment tendue à voler, et l'exécution d'un coup exigeant l'emploi de toutes les forces de la vie, une agilité d'esprit égale à l'aptitude du corps, une attention qui abuse de leur morale, ils deviennent stupides, hors de ces violents exercices de leur volonté. Par la même raison qu'une cantatrice ou qu'un danseur tombe épuisé après un pas fatigant ou après l'un de ces formidables duos, comme en infligent au public les compositeurs modernes. Les malfaiteurs sont en effet si dénués de raison ou tellement oppressés par la crainte qu'ils deviennent absolument enfants. Crédules au dernier point, la plus simple ruse les prend dans sa glu. Après la réussite d'une affaire, ils sont dans un tel état de prostration que, livrés immédiatement à des débauches nécessaires, ils s'enivrent de vin, de liqueur et se jettent dans les bras de leurs femmes avec rage pour retrouver du calme en perdant toute leur force et cherchent l'oubli de leurs crimes dans l'oubli de leur raison. En cette situation, ils sont à la merci de la police. Une fois arrêtés, ils sont aveugles, ils perdent la tête, et ils ont tant besoin d'espérance qu'ils croient à tout. Aussi, n'est-il pas d'absurdité qu'on ne leur fasse admettre? Un exemple expliquera jusqu'où va la bêtise du criminel enflaqué. Bibi Lupin avait récemment obtenu les aveux d'un assassin âgé de 19 ans en lui persuadant qu'on n'exécutait jamais les mineurs. Quand on transféra ce garçon à la conciergerie pour subir son jugement, après le rejet du pourvoi, ce terrible agent était venu le voir. « Es-tu sûr de ne pas avoir 20 ans ?» lui demanda-t-il. « Oui, je n'ai que 19 ans et demi, » dit l'assassin parfaitement calme. « Eh bien, » répondit Bibi Lupin, « tu peux être tranquille. » Tu n'auras jamais 20 ans. Et pourquoi? Eh mais, tu seras fauché dans 3 jours, répliqua le chef de la sûreté. L'assassin, qui croyait toujours, même après son jugement, qu'on n'exécutait pas les mineurs, s'affaissa comme une omelette soufflée. Ces hommes, si cruels par la nécessité de supprimer des témoignages, car ils n'assassinent que pour se défaire de preuves, c'est une des raisons alléguées par ceux qui demandent la suppression de la peine de mort. Ces colosses d'adresse, d'habileté, chez qui l'action de la main, la rapidité du coup d'œil, les sens sont exercés comme chez les sauvages, ne deviennent des héros de malfaisance que sur le théâtre de leurs exploits. Non seulement le crime commis, leurs embarras commencent, car ils sont aussi hébétés par la nécessité de cacher les produits de leur vol qu'ils étaient oppressés par la misère. Mais encore, ils sont affaiblis comme la femme qui vient d'accoucher. Énergiques à effrayer dans leur conception, ils sont comme des enfants après la réussite. C'est en un mot le naturel des bêtes sauvages, faciles à tuer quand elles sont repues. En prison, ces hommes singuliers sont hommes par la dissimulation et par leur discrétion, qui ne cèdent qu'au dernier moment, alors qu'on les a brisés, roués, par la durée de la détention. On peut alors comprendre comment les 3 forçats, au lieu de perdre leur chef, voulurent le servir. Ils l'admirèrent, en le soupçonnant d'être le maître des 750 000 francs volés, en le voyant calme sous les verrous de la conciergerie, et le croyant capable de les prendre sous sa protection. Lorsque M. Gault eut quitté le faux espagnol, il revint par le parloir à son greffe et alla trouver Bibi Lupin qui, depuis 20 minutes que Jacques Collin était descendu de sa cellule, observait tout, tapi contre une des fenêtres donnant sur le préau par un Judas. « Aucun d'eux ne l'a reconnu, » dit M. Gault, « et Napolitas, qui les surveille tous, n'a rien entendu. Le pauvre prêtre, dans son accablement cette nuit, n'a pas dit un mot qui puisse faire croire que sa soutane cache Jacques Collin. » Ça prouve qu'il connaît bien les prisons, répondit le chef de la police de sûreté. Napolitas, secrétaire de Bibi Lupin, inconnus de tous les gens, en ce moment détenus à la conciergerie, y jouait le rôle du fils de famille accusé de faux. Enfin, il demande à confesser le condamné à mort, reprit le directeur. « Voici notre dernière ressource !» s'écria Bibi Lupin. « Je n'y pensais pas. Théodore Calvi, ce Corse, est le camarade de chaîne de Jacques Collin. Jacques Collin lui faisait auprès, m'a-t-on dit, de bien belles patarasses. » Les forçats se fabriquent des espèces de tampons qu'ils glissent entre leur anneau de fer et leur chair afin d'amortir la pesanteur de la manicle sur leurs chevilles et leurs coups de pied. Ces tampons, composés d'étoupe et de linge, s'appellent au bagne des patarasses. « Qui veille le condamné ?» demanda Bibi Lupin à M. Gault. « C'est Cœur Lavirole. »« Bien. Je vais me poser en gendarme. J'y serai. Je les entendrai, je réponds de tout. Ne craignez-vous pas, si c'est Jacques Collin, d'être reconnu et qu'il ne vous étrangle ?» demanda le directeur de la conciergerie à Bibi Lupin. « En gendarme, j'aurai mon sabre, » répondit le chef. « D'ailleurs, si c'est Jacques Collin, il ne fera jamais rien pour se faire gerber à la passe. Et si c'est un prêtre, je suis en sûreté. »« Il n'y a pas de temps à perdre, » dit alors Monsieur Gault. « Il est 8h30, le père Sauteloup vient de lire le rejet du pourvoi. Monsieur Sanson attend dans la salle l'ordre du parquet. « Oui, c'est pour aujourd'hui. Les hussards de la veuve, autre nom, nom terrible de la mécanique, sont commandés, » répondit Bibi Lupin. « Je comprends cependant que le procureur général hésite. Ce garçon s'est toujours dit innocent, et il n'y a pas eu, selon moi, de preuves convaincantes contre lui. « C'est un vrai Corse, » reprit Monsieur Gault. « Il n'a pas dit un mot, et il a résisté à tout. » Le dernier mot du directeur de la conciergerie, au chef de la police de sûreté, contenait la sombre histoire des condamnés à mort. Un homme que la justice a retranché du nombre des vivants appartient au parquet. Le parquet est souverain. Il ne dépend de personne. Il ne relève que de sa conscience. La prison appartient au parquet. Il en est le maître absolu. La poésie s'est emparée de ce sujet social, éminemment propre à frapper les imaginations, le condamné à mort. La poésie a été sublime. La prose n'a d'autre ressource que le réel. Mais le réel est assez terrible comme il est pour pouvoir lutter avec le lyrisme. La vie du condamné à mort qui n'a pas avoué ses crimes ou ses complices est livrée à d'affreuses tortures. Il ne s'agit ici ni de brodequins qui brisent les pieds, ni d'eau ingurgitée dans l'estomac, ni de la distension des membres au moyen d'affreuses machines, mais d'une torture sournoise, et pour ainsi dire négative. Le parquet livre le condamné tout à lui-même. Il le laisse dans le silence et dans les ténèbres, avec un compagnon, un mouton, dont il doit se défier. L'aimable philanthropie moderne croit avoir deviné l'atroce supplice de l'isolement. Elle se trompe. Depuis l'abolition de la torture, le parquet, dans le désir bien naturel de rassurer les consciences déjà bien délicates des jurés, avait deviné les ressources terribles que la solitude donne à la justice contre le remords. La solitude, c'est le vide. Et la nature morale en a tout autant d'horreur que la nature physique. La solitude n'est habitable que pour l'homme de génie qui l'a rempli de ses idées, fille du monde spirituel, ou pour le contemplateur des œuvres divines, qui la trouve illuminée par le jour du ciel, animée par le souffle et par la voix de Dieu. Hormis ces deux hommes, si voisins du paradis, la solitude est à la torture ce que le moral est au physique. Entre la solitude et la torture, il y a toute la différence de la maladie nerveuse à la maladie chirurgicale. C'est la souffrance multiplié par l'infini. Le corps touche à l'infini par le système nerveux, comme l'esprit y pénètre par la pensée. Aussi, dans les annales du parquet de Paris, compte-t-on les criminels qui n'avouent pas. Cette sinistre situation, qui prend des proportions énormes dans certains cas, en politique par exemple, lorsqu'il s'agit d'une dynastie ou de l'État, aura son histoire à sa place dans la comédie humaine. Mais ici, la description de la boîte en pierre où, sous la Restauration, le parquet de Paris gardait le condamné à mort, peut suffire à faire entrevoir l'horreur des derniers jours d'un suppliciable. Avant la Révolution de Juillet, il existait à la Conciergerie, et il y existe encore aujourd'hui d'ailleurs, la chambre du condamné à mort. Cette chambre, adossée au greffe, en est séparée par un gros mur tout en pierre de taille, et elle est flanquée à l'opposite par le gros mur de 7 ou 8 pieds d'épaisseur qui soutient une portion de l'immense salle des pas perdus. On y entre par la première porte qui se trouve dans le long corridor sombre où le regard plonge quand on est au milieu de la grande salle voûtée du guichet. Cette chambre sinistre tire son jour d'un soupirail, armé d'une grille formidable, et qu'on aperçoit à peine en entrant à la Conciergerie, car il est pratiqué dans le petit espace qui reste entre la fenêtre du greffe, à côté de la grille du guichet, et le logement du greffier de la Conciergerie, que l'architecte a plaqué comme une armoire au fond de la cour d'entrée. Cette situation explique comment cette pièce, encadrée par 4 épaisses murailles, a été destinée, lors du remaniement de la Conciergerie, à ce sinistre et funèbre usage. Toute évasion y est impossible. Le corridor qui mène au secret et au quartier des femmes débouche en face du poêle, où gendarmes et surveillants sont toujours groupés. Le soupirail, seule issue extérieure, situé à 9 pieds au-dessus des dalles, donne sur la première cour, gardée par les gendarmes en faction, à la porte extérieure de la Conciergerie. Aucune puissance humaine ne peut attaquer les gros murs. D'ailleurs, un criminel condamné à mort est aussitôt revêtu de la camisole, vêtement qui supprime, comme on le sait, l'action des mains. Puis il est enchaîné par un pied à son lit de camp. Enfin, il a pour le servir et le garder un mouton. Le sol de cette chambre est dallé de pierres épaisses, et le jour est si faible qu'on y voit à peine. Il est impossible de ne pas se sentir gelé jusqu'aux os en entrant là, même aujourd'hui, quoique depuis 16 ans, cette chambre soit sans destination, par suite des changements introduits à Paris dans l'exécution des arrêts de la justice. Voyez-y le criminel, en compagnie de ses remords, dans le silence et les ténèbres, de sources d'horreur. Et demandez-vous si ce n'est pas à devenir fou. Quelles organisations que celles dont la trempe résiste à ce régime auquel la camisole ajoute l'immobilité, l'inaction. Théodore Calvi, ce Corse, alors âgé de 27 ans, enveloppé dans les voiles d'une discrétion absolue, résistait cependant depuis 2 mois à l'action de ce cachot et au bavardage captieux du mouton. Voici le singulier procès criminel où le Corse avait gagné sa condamnation à mort. Quoiqu'elle soit excessivement curieuse, cette analyse sera très rapide. Il est impossible de faire une longue digression au dénouement d'une scène déjà si étendue et qui n'offre pas d'autre intérêt que celui dont est entouré Jacques Collin, espèce de colonne vertébrale qui, par son horrible influence, relie, pour ainsi dire, le père Goriot à Illusion perdue et Illusion perdue à cette étude. L'imagination du lecteur développera d'ailleurs ce thème obscur qui causait en ce moment bien des inquiétudes aux jurés de la session où Théodore Calvi avait comparu. Aussi, depuis 8 jours que le pourvoi du criminel était rejeté par la cour de cassation, M. de Granville s'occupait-il de cette affaire et suspendait-il l'ordre d'exécution de jour en jour, tant il tenait à rassurer les jurés en publiant que le condamné, sur le seuil de la mort, avait avoué son crime. Une pauvre veuve de Nanterre, dont la maison était isolée dans cette commune, située, comme on sait, au milieu de la plaine infertile qui s'étale entre le Mont Valérien, Saint-Germain, les collines de Sartrouville et d'Argenteuil, avait été assassinée et volée quelques jours après avoir reçu sa part d'un héritage inespéré. Cette part se montait à 3 000 francs, à 12 couverts, une chaîne, une montre en or et du linge. Au lieu de placer les 3 000 francs à Paris, comme le lui conseillait le notaire du marchand de vin décédé de qui elle héritait, la vieille femme avait voulu tout garder. D'abord, elle ne s'était jamais vue tant d'argent à elle. Puis elle se défiait de tout le monde en toute espèce d'affaires, comme la plupart des gens du peuple ou de la campagne. Après de mûres causeries avec un marchand de vin de Nanterre, son parent et parent du marchand de vin décédé, cette veuve s'était résolue à mettre la somme en viager, à vendre sa maison de Nanterre et à aller vivre en bourgeoise à Saint-Germain. La maison où elle demeurait, accompagnée d'un assez grand jardin enclos de mauvaises palissades, était l'ignoble maison que se bâtissent les petits cultivateurs des environs de Paris. Le plâtre et les moellons extrêmement abondants à Nanterre, dont le territoire est couvert de carrières exploitées à ciel ouvert, avaient été, comme on le voit communément autour de Paris, employés à la hâte et sans aucune idée architecturale. C'est presque toujours la hutte du sauvage civilisé. Cette maison consistait en un rez-de-chaussée et un premier étage, au-dessus duquel s'étendaient des mansardes. Le carrier, mari de cette femme et constructeur de ce logis, avait mis des barres de fer très solides à toutes les fenêtres. La porte d'entrée était d'une solidité remarquable. Le défunt se savait là seul, en rase campagne. Et quelle campagne ! Sa clientèle se composait des principaux maîtres maçons de Paris. Il avait donc rapporté les plus importants matériaux de sa maison, bâtie à 500 pas de sa carrière, sur ses voitures qui revenaient à vide. Il choisissait dans les démolitions de Paris les choses à sa convenance et à très bas prix. Ainsi les fenêtres, les grilles, les portes, les volets, la menuiserie, tout était provenu de déprédations autorisées, de cadeaux à lui faits par ses pratiques, de bons cadeaux bien choisis. De deux châssis à prendre, il emportait le meilleur. La maison, précédée d'une cour assez vaste où se trouvaient les écuries, était fermée de murs sur le chemin. Une forte grille servait de porte. D'ailleurs, des chiens de garde habitaient l'écurie, et un petit chien passait la nuit dans la maison. Derrière la maison, il existait un jardin, d'un hectare environ. Devenue veuve et sans enfant, la femme du carrier demeurait dans cette maison avec une seule servante. Le prix de la carrière vendue avait soldé les dettes du carrier, mort 2 ans auparavant. Le seul avoir de la veuve fut cette maison déserte, où elle nourrissait des poules et des vaches en en vendant les œufs et le lait à Nanterre. N'ayant plus de garçon d'écurie, de charretier ni d'ouvrier carrier, que le défunt faisait travailler à tout, elle ne cultivait plus le jardin. Elle y coupait le peu d'herbes et de légumes que la nature de ce sol caillouteux y laisse venir. Le prix de la maison et l'argent de la succession pouvant produire 7 à 8 000 francs, cette femme se voyait très heureuse à Saint-Germain, avec 700 ou 800 francs de rente viagère qu'elle croyait pouvoir tirer de ces 8 000 francs. Elle avait eu déjà plusieurs conférences avec le notaire de Saint-Germain, car elle se refusait à donner son argent en viager au marchand de vin de Nanterre qui le lui demandait. Dans ces circonstances, un jour, on ne vit plus reparaître la veuve Pigeot ni sa servante. La grille de la cour, la porte d'entrée de la maison, les volets, tout était clos. Après 3 jours, la justice, informée de cet état de choses, fit une descente. Monsieur Popineau, juge d'instruction accompagné du procureur du roi, vint de Paris. Et voici ce qui fut constaté. Ni la grille de la cour, ni la porte d'entrée de la maison ne portaient de traces d'effraction. La clé se trouvait dans la serrure de la porte d'entrée, à l'intérieur. Pas un barreau de fer n'avait été forcé. Les serrures, les volets, toutes les fermetures étaient intactes. Les murailles ne présentaient aucune trace qui pût dévoiler le passage des malfaiteurs. Les cheminées en poterie, n'offrant pas d'issue praticable, n'avaient pu permettre de s'introduire par cette voie. Les faîteaux, sains et entiers, n'accusaient d'ailleurs aucune violence. En pénétrant dans les chambres au premier étage, les magistrats, les gendarmes et Bibi Lupin trouvèrent la veuve Pigeot étranglée dans son lit et la servante étranglée dans le sien, au moyen de leur foulard de nuit. Les 3 000 francs avaient été pris, ainsi que les couverts et les bijoux. Les 2 corps étaient en putréfaction, ainsi que ceux du petit chien et d'un gros chien de basse-cour. Les palissades d'enceinte du jardin furent examinées, mais rien n'était brisé. Dans le jardin, les allées n'offraient aucun vestige de passage. Il parut probable au juge d'instruction que l'assassin avait marché sur l'herbe pour ne pas laisser l'empreinte de ses pas, s'il s'était introduit par là. Mais comment avait-il pu pénétrer dans la maison? Du côté du jardin, la porte avait une imposte garnie de 3 barreaux de fer intacts. De ce côté, la clé se trouvait également dans la serrure, comme à la porte d'entrée du côté de la cour. Une fois ces impossibilités parfaitement constatées par M. Popineau, par Bibi Lupin, qui resta pendant une journée à tout observer, par le procureur du roi lui-même et par le brigadier du poste de Nanterre, cet assassinat devint un affreux problème où la politique et la justice devaient avoir le dessous. Ce drame, publié par la Gazette des Tribunaux, avait eu lieu dans l'hiver de 1828 à 1829. Dieu sait quel intérêt de curiosité cette étrange aventure souleva dans Paris. Mais Paris, qui tous les matins a de nouveaux drames à dévorer, oublie tout. La police, elle, n'oublie rien. 3 mois après ces perquisitions infructueuses, une fille publique, remarquée pour ses dépenses par des agents de Bibi Lupin et surveillée à cause de ses accointances avec quelques voleurs, voulut faire engager par une de ses amies 12 couverts, une montre et une chaîne d'or. L'ami refusa. Le fait parvint aux oreilles de Bibi Lupin, qui se souvint des 12 couverts, de la montre et de la chaîne d'or volées à Nanterre. Aussitôt les commissionnaires au Mont-de-Piété, tous les receleurs de Paris furent avertis, et Bibi Lupin soumit Manon la Blonde à un espionnage formidable. On apprit bientôt que Manon la Blonde était amoureuse folle d'un jeune homme qu'on ne voyait guère, car il passait pour être sourd à toutes les preuves d'amour de la blonde Manon. Mystère sur mystère. Ce jeune homme, soumis à l'attention des espions, fut bientôt vu, puis reconnu, pour être un forçat évadé, le fameux héros des Vendette Corse, le beau Théodore Calvi, dit Madeleine. On lâcha sur Théodore, un de ces receleurs à double face qui servent à la fois les voleurs et la police, et il promit à Théodore d'acheter les couverts, la montre et la chaîne d'or. Au moment où le ferrailleur de la cour Saint-Guillaume comptait l'argent à Théodore, déguisé en femme, à 10h30 du soir, la police fit une descente, arrêta Théodore et saisit les objets. L'instruction commença sur le champ. Avec de si faibles éléments, il était impossible, en style de parquet, d'en tirer une condamnation à mort. Jamais Calvi ne se démentit. Il ne se coupa jamais. Il dit qu'une femme de la campagne lui avait vendu ses objets à Argenteuil et qu'après les lui avoir achetés, le bruit de l'assassinat commis à Nanterre l'avait éclairé sur le danger de posséder ses couverts, cette montre et ses bijoux, qui d'ailleurs, ayant été désignés dans l'inventaire fait après le décès du marchand de vin de Paris, oncle de la veuve Pigeot, se trouvaient être les objets volés. Enfin, forcé par la misère de vendre ses objets, disait-il, il avait voulu s'en défaire en employant une personne non compromise. On ne put rien obtenir de plus du forçat libéré, qui sut, par son silence et par sa fermeté, faire croire à la justice que le marchand de vin de Nanterre avait commis le crime et que la femme de qui il tenait les choses compromettantes était l'épouse de ce marchand. Le malheureux parent de la veuve Pigeot et sa femme furent arrêtés. Mais après 8 jours de détention et une enquête scrupuleuse, il fut établi que ni le mari ni la femme n'avaient quitté leur établissement à l'époque du crime. D'ailleurs, Calvi ne reconnut pas dans l'épouse du marchand de vin la femme qui, selon lui, lui aurait vendu l'argenterie et les bijoux. Comme la concubine de Calvi, impliquée dans le procès, fut convaincue d'avoir dépensé 1000 francs environ, depuis l'époque du crime jusqu'au moment où Calvi voulut engager l'argenterie et les bijoux, de telles preuves parurent suffisantes pour faire envoyer aux assises le forçat et sa concubine. Cet assassinat étant le 18e commis par Théodore, il fut condamné à mort, car il parut être l'auteur de ce crime si habilement commis. S'il ne reconnut pas la marchande de vin de Nanterre, il fut reconnu par la femme et par le mari. L'instruction avait établi, par de nombreux témoignages, le séjour de Théodore à Nanterre pendant environ un mois. Il y avait servi les maçons, la figure enfarinée de plâtre et mal vêtue. À Nanterre, chacun donnait 18 ans à ce garçon, qui devait avoir nourri ce poupon, comploté, préparé ce crime pendant un mois. Le parquet croyait à des complices. On mesura la largeur des tuyaux pour l'adapter au corps de Manon la Blonde, afin de voir si elle avait pu s'introduire par les cheminées. Mais un enfant de 6 ans n'aurait pu passer par les tuyaux en poterie, par lesquels l'architecture moderne remplace aujourd'hui les vastes cheminées d'autrefois. Sans ce singulier et irritant mystère, Théodore eût été exécuté depuis une semaine. L'aumônier des prisons avait, comme on l'a vu, totalement échoué. Cette affaire et le nom de Calvi durent échapper à l'attention de Jacques Collin, alors préoccupé de son duel avec Contenson, Corentin et Peyrade. Trompe-la-Mort essayait d'ailleurs d'oublier le plus possible les amis et tout ce qui regardait le palais de justice. Il tremblait d'une rencontre qu'il aurait mis face à face avec un fanandel par qui le dab se serait vu demander des comptes impossibles à rendre. Le directeur de la conciergerie alla sur-le-champ au parquet du procureur général et y trouva le premier avocat général causant avec M. de Granville et tenant l'ordre d'exécution à la main. M. de Granville, qui venait de passer toute la nuit à l'hôtel de Sérisy, quoiqu'accablé de fatigue et de douleur, car les médecins n'osaient encore affirmer que la comtesse conserverait sa raison, était obligé, par cette exécution importante, de donner quelques heures à son parquet. Après avoir causé un instant avec le directeur, M. de Granville reprit l'ordre d'exécution à son avocat général et la remit à Gault. « Que l'exécution ait lieu, dit-il, à moins de circonstances extraordinaires que vous jugerez. Je me fie à votre prudence. On peut retarder le dressage de l'échafaud jusqu'à 10h30. Il vous reste donc 1 heure. Dans une pareille matinée, les heures valent des siècles, et il tient bien des événements dans un siècle. Ne laissez pas croire à un sursis. Qu'on fasse la toilette s'il le faut. Et s'il n'y a pas de révélation, remettez l'ordre à Sanson à 9h30. Qu'il attende. » Au moment où le directeur de la prison quittait le cabinet du procureur général, il rencontra sous la voûte du passage qui débouche dans la galerie M. Camusot qui s'y rendait. Il eut donc une rapide conversation avec le juge, et après l'avoir instruit de ce qui se passait à la conciergerie relativement à Jacques Collin, il y descendit pour opérer cette confrontation de Trompe-la-Mort et de Madeleine. Mais il ne permit au soi-disant ecclésiastique de communiquer avec le condamné à mort qu'au moment où Bibi Lupin, admirablement déguisé en gendarme, eut remplacé le mouton qui surveillait le jeune Corse. On ne peut pas se figurer le profond étonnement des trois forçats en voyant un surveillant venir chercher Jacques Collin pour le mener dans la chambre du condamné à mort. Ils se rapprochèrent de la chaise où Jacques Collin était assis par un bond simultané. « C'est pour aujourd'hui, n'est-ce pas, monsieur Julien ? » dit-il de soi au surveillant. « Mais oui, Charlot est là, » répondit le surveillant avec une parfaite indifférence. Le peuple et le monde des prisons appellent ainsi l'exécuteur des hautes œuvres de Paris. Ce sobriquet date de la Révolution de 1789. Ce nom produisit une profonde sensation. Tous les prisonniers se regardèrent entre eux. « C'est fini, » répondit le surveillant. « L'ordre d'exécution est arrivé à M. Gault, et l'arrêt vient d'être lu. » « Ainsi, » reprit la Pouraille, « la belle Madeleine a reçu tous les sacrements. Il avale sa dernière bouffée d'air. »« Pauvre petit Théodore, » s'écria le Biffon, « il est bien gentil. C'est dommage d'éternuer dans le son à son âge. » Le surveillant se dirigeait vers le guichet, en se croyant suivi de Jacques Collin. Mais l'Espagnol allait lentement, et quand il se vit à 10 pas de Julien, il parut faiblir, et demanda par un geste le bras de la Pouraille. « C'est un assassin !» dit Napolitas au prêtre, en montrant la Pouraille et en offrant son bras. « Non, Pour moi, c'est un malheureux, répondit Trompe-la-Mort, avec la présence d'esprit et l'onction de l'archevêque de Cambrai. Et il se sépara de Napolitas, qui, du premier coup d'œil, lui avait paru très suspect. Il est sur la première marche de l'abbaye de Mont-à-Regret, mais j'en suis le prieur. Je vais vous montrer comment je sais mentifler avec la cigogne, rouait le procureur général. Je veux cromper cette Sorbonne de ses pattes. À cause de sa montante, dit Fil de Soie en souriant, je veux donner cette âme au ciel, répondit avec componction Jacques Collin, en se voyant entouré par quelques prisonniers. Et il rejoignit le surveillant au guichet. Il est venu pour sauver Madeleine, dit Fil de Soie. Nous avons bien deviné la chose. Quelle dabe! Mais comment? Les hussards de la guillotine sont là. Il ne le verra seulement pas, reprit le Biffon. Il a le boulanger pour lui, s'écria la Pouraille. Lui, poissé dans Philippe, il aime trop les amis. Il a trop besoin de nous. On voulait nous mettre à la manque pour lui, nous le faire livrer. Nous ne sommes pas des gnolles. S'il crompe sa Madeleine, il aura ma balle, mon secret. Ce dernier mot eut pour effet d'augmenter le dévouement des trois forçats pour leur dieu, car en ce moment, leur fameux dabe devint toute leur espérance. Jacques Collin, malgré le danger de Madeleine, ne faillit pas à son rôle. Cet homme, qui connaissait la conciergerie aussi bien que les trois bagnes, se trompa si naturellement que le surveillant fut obligé de lui dire à tout moment, par ici, par là, jusqu'à ce qu'ils fussent arrivés au greffe. Là, Jacques Collin vit du premier regard, accoudé sur le poêle, un homme grand et gros, dont le visage rouge et long ne manquait pas d'une certaine distinction, et il reconnut Samson. « Monsieur est l'aumônier, » dit-il en allant à lui d'un air plein de bonhomie. Cette erreur fut si terrible qu'elle glaça les spectateurs. « Non, monsieur, » répondit Samson, « j'ai d'autres fonctions. » Samson, le père du dernier exécuteur de ce nom, car il a été destitué récemment, était le fils de celui qui exécuta Louis XVI. Après 400 ans d'exercice de cette charge, l'héritier de tant de tortionnaires avait tenté de répudier ce fardeau héréditaire. Les Samson, bourreaux à Rouen pendant 2 siècles, avant d'être revêtus de la première charge du royaume, exécutaient de père en fils les arrêts de la justice depuis le 13e siècle. Il est peu de familles qui puissent offrir l'exemple d'un office ou d'une noblesse conservée de père en fils pendant 6 siècles. Au moment où ce jeune homme, devenu capitaine de cavalerie, se voyait sur le point de faire une belle carrière dans les armes, son père exigea qu'il vînt l'assister pour l'exécution du roi. Puis il fit de son fils son second, lorsqu'en 1793, il y eut 2 échafauds en permanence, l'un à la barrière du trône, l'autre à la place de Grève. Alors âgé d'environ 60 ans, ce terrible fonctionnaire se faisait remarquer par une excellente tenue, par des manières douces et posées, par un grand mépris pour Bibi Lupin et ses acolytes, les pourvoyeurs de la machine. Le seul indice qui, chez cet homme, trahissait le sang des vieux tortionnaires du Moyen-Âge était une largeur et une épaisseur formidables dans les mains. Assez instruit d'ailleurs, tenant fort à sa qualité de citoyen et d'électeur, passionné, dit-on, pour le jardinage, ce grand et gros homme, parlant bas, d'un maintien calme, très silencieux, au front large et chauve, ressemblait beaucoup plus à un membre de l'aristocratie anglaise qu'à un exécuteur des hautes œuvres. Aussi, un chanoine espagnol devait-il commettre l'erreur que commettait volontairement Jacques Collin. « Ce n'est pas un forçat, » dit le chef des surveillants au directeur. « Je commence à le croire, » se dit Monsieur Gault en faisant un mouvement de tête à son subordonné. Jacques Collin fut introduit dans l'espèce de cave où le jeune Théodore, en camisole de force, était assis au bord de l'affreux lit-de-camp de cette chambre. Trompe-la-Mort, momentanément éclairé par le jour du corridor, reconnu sur-le-champ Bibi Lupin, dans le gendarme qui se tenait debout, appuyé sur son sabre.
« Io sono Gabamorto, parla nostro italiano, » dit vivement Jacques Collin.
« Vengo ti salvar. »« Je suis Trompe-la-Mort, parlons italien, je viens te sauver. »
Tout ce qu'allaient se dire les deux amis devait être inintelligible pour le faux gendarme. Et comme Bibi Lupin était censé garder le prisonnier, il ne pouvait quitter son poste. Aussi la rage du chef de la police de sûreté ne saurait-elle se décrire.
Théodore Calvi, jeune homme au teint pâle et olivâtre, à cheveux blonds, aux yeux caves et d'un bleu trouble, très bien proportionné d'ailleurs, d'une prodigieuse force musculaire, caché sous cette apparence lymphatique que présentent parfois les méridionaux, aurait eu la plus charmante physionomie, sans des sourcils arqués, sans un front déprimé, qui lui donnait quelque chose de sinistre, sans des lèvres rouges, d'une cruauté sauvage, et sans un mouvement de muscles qui dénote cette faculté d'irritation particulière aux Corses, et qui les rend si prompts à l'assassinat dans une querelle soudaine. Saisi d'étonnement par les sons de cette voix, Théodore leva brusquement la tête et crut à quelque hallucination. Mais comme il était familiarisé par une habitation de 2 mois avec la profonde obscurité de cette boîte en pierre de taille, il regarda le faux ecclésiastique et soupira profondément. Il ne reconnut pas Jacques Collin, dont le visage couturé par l'action de l'acide sulfurique ne lui sembla point être celui de son dab.
« C'est bien moi, ton Jacques. Je suis en prêtre et je viens te sauver. Ne fais pas la bêtise de me reconnaître et aie l'air de te confesser. » Ceci fut dit rapidement. Ce jeune homme est très abattu. La mort l'effraie. Il va tout avouer, dit Jacques Collin en s'adressant au gendarme. « Dis-moi quelque chose qui me prouve que tu es lui, car tu n'as que sa voix. » « Voyez-vous, il me dit le pauvre malheureux qu'il est innocent, » reprit Jacques Collin en s'adressant au gendarme. Bibi Lupin n'osa point parler, de peur d'être reconnu. « Sempre mi, » répondit Jacques en revenant à Théodore et lui jetant ce mot de convention dans l'oreille.
« Sempre ti, » dit le jeune homme en donnant la réplique de la passe.
« C'est bien mon dab. As-tu fait le coup ?»«
Oui.
Raconte-moi tout, afin que je puisse voir comment je ferai pour te sauver. Il est temps. Charlot est là. » Aussitôt, le Corse se mit à genoux et parut vouloir se confesser. Bibi Lupin ne savait que faire, car cette conversation fut si rapide qu'elle prit à peine le temps pendant lequel elle se lit. Théodore raconta promptement les circonstances connues de son crime et que Jacques Collin ignorait. « Les jurés m'ont condamné sans preuve, » dit-il en terminant. « Enfant, tu discutes quand on va te couper les cheveux. Mais je puis bien avoir été seulement chargé de mettre en plan les bijoux. Et voilà comment on juge, et à Paris encore. »
« Mais comment s'est fait le coup ?» demanda Trompe-la-Mort.
« Ah, voilà. Depuis que je ne t'ai vu, j'ai fait la connaissance d'une petite fille corse que j'ai rencontrée en arrivant à Pantin, Paris. » « Les hommes assez bêtes pour aimer une femme, » s'écria Jacques Collin, « périssent toujours par là. C'est des tigres en liberté, des tigres qui babillent et qui se regardent dans des miroirs. Tu n'as pas été sage. Mais, voyons, à quoi t'a-t-elle servi cette sacrée largue ? Cet amour de femme, grande comme un fagot, mince comme une anguille, adroite comme un singe, a passé par le haut du four et m'a ouvert la porte de la maison. Les chiens, bourrés de boulettes, étaient morts. Je refroidis les deux femmes. Une fois l'argent pris, la Ginetta a refermé la porte et est sortie par le haut du four. Une si belle invention vaut la vie, dit Jacques Collin, en admirant la façon du crime, comme un ciseleur admire le modèle d'une figurine. J'ai commis la sottise de déployer tout ce talent-là pour 1000 écus.
Non, pour une femme, reprit Jacques Collin.
Quand je te disais qu'elle nous ôte notre intelligence.
Jacques Collin, je t'assure Théodore un regard flamboyant de mépris.
Tu n'étais plus là, répondit le Corse.
J'étais abandonné.
Et l'aimes-tu, cette petite ?
Demanda Jacques Collin, sensible au reproche que contenait cette réponse.
Ah, si je veux vivre, c'est maintenant pour toi, plus que pour elle.
Reste tranquille, je ne me nomme pas pour rien, trompe la mort.
Je me charge de toi.
Quoi ? La vie !
S'écria le jeune Corse, en levant ses bras emmaillotés vers la voûte humide de ce cachot.
Ma petite Madeleine, apprête-toi à retourner au pré à Vioc, reprit Jacques Collin.
Tu dois t'y attendre, on ne va pas te couronner de roses comme le bœuf gras.
S'ils nous ont déjà ferrés pour Rochefort, c'est qu'ils essaient à se débarrasser de nous.
Mais je te ferai diriger sur Toulon, tu t'évaderas, et tu reviendras à Pantin, où je t'arrangerai quelque petite existence bien gentille.
Un soupir, comme il en avait peu retenti sous cette voûte inflexible, un soupir exhalé par le bonheur de la délivrance, choqua la pierre, qui renvoya cette note, sans égale en musique, dans l'oreille de Bibi Lupin stupéfait.
C'est l'effet de l'absolution que je viens de lui promettre à cause de ses révélations, dit Jacques Collin au chef de la police de sûreté.
Ces Corses, voyez-vous, monsieur le gendarme, sont pleins de foi.
Mais il est innocent comme l'enfant Jésus, et je vais essayer de le sauver.
Dieu soit avec vous, monsieur l'abbé,
dit en français Théodore.
Trompe la mort, plus Carlos Herrera, plus chanoine que jamais, sortit de la chambre du condamné, se précipita dans le corridor et joua l'horreur en se présentant à monsieur Gault.
Monsieur le directeur, ce jeune homme est innocent, il m'a révélé le coupable. Il allait mourir pour un faux point d'honneur.
C'est un Corse.
Allez demander pour moi, dit-il, 5 minutes d'audience à monsieur le procureur général.
Monsieur de Granville ne refusera pas d'écouter immédiatement un prêtre espagnol qui souffre tant des erreurs de la justice française.
J'y vais, répondit monsieur Gault, au grand étonnement de tous les spectateurs de cette scène extraordinaire.
Mais, reprit Jacques Collin, faites-moi reconduire dans cette cour en attendant, car j'y achèverai la conversion d'un criminel que j'ai déjà frappé dans le cœur. Ils ont un cœur, ces gens-là.
Cette allocution produisit un mouvement parmi toutes les personnes qui se trouvaient là.
Les gendarmes, le greffier des écrous, Samson, les surveillants, l'aide de l'exécuteur, qui attendait l'ordre d'aller faire dresser la mécanique en style de prison.
Tout ce monde, sur qui les émotions glissent, fut agité par une curiosité très concevable.
En ce moment, on entendit le fracas d'un équipage à chevaux fins qui arrêtait à la grille de la conciergerie, sur le quai, d'une manière significative. La portière fut ouverte, le marchepied fut déplié si vivement que toutes les personnes crurent à l'arrivée d'un grand personnage. Bientôt, une dame, agitant un papier bleu, se présenta, suivie d'un valet de pied et d'un chasseur à la grille du guichet. Vêtue tout en noir et magnifiquement, le chapeau couvert d'un voile, elle essuyait ses larmes avec un mouchoir brodé très ample.
Jacques Collin reconnut aussitôt Asie, ou pour rendre son véritable nom à cette femme, Jacqueline Collin, sa tante.
Cette atroce vieille, digne de son neveu, dont toutes les pensées étaient concentrées sur le prisonnier et qui le défendait avec une intelligence, une perspicacité, au moins égale en puissance à celle de la justice, avait une permission, donnée la veille au nom de la femme de chambre de la duchesse de Maufrigneuse, sur la recommandation de monsieur de Sérisy, de communiquer avec Lucien et l'abbé Carlos Herrera, dès qu'il ne serait plus au secret, et sur laquelle le chef de division, chargé des prisons, avait écrit un mot. Le papier, par sa couleur, impliquait déjà de puissantes recommandations, car ces permissions, comme les billets de faveur au spectacle, diffèrent de forme et d'aspect.
Aussi le porte-clés ouvrit-il le guichet,
surtout en apercevant ce chasseur emplumé dont le costume vert et or, brillant comme celui d'un général russe, annonçait une visiteuse aristocratique et un blason quasi royal.
« Ah, mon cher abbé,
s'écria la fausse grande dame, qui versa un torrent de larmes en apercevant l'ecclésiastique. « Comment a-t-on pu mettre ici, même pour un instant, un si saint homme ?» Le directeur prit la permission et lut, à la recommandation de son Excellence le comte de Sérisy. « Ah, madame de San Esteban, madame la marquise !» dit Carlos Herrera. « Quel beau dévouement !»« Madame, on ne communique pas ainsi !» dit le bon vieux Go. Et il arrêta lui-même au passage cette tonne de moire noire et de dentelle. « Mais à cette distance, » reprit Jacques Collin, « et devant vous, » ajouta-t-il, en jetant un regard circulaire à l'assemblée. La tante, dont la toilette devait étourdir le greffe, le directeur, les surveillants et les gendarmes, puait le musc. Elle portait, outre des dentelles pour 1000 écus, un cachemire noir de 6 000 francs. Enfin, le chasseur paradait dans la cour de la conciergerie avec l'insolence d'un laquais qui se sait indispensable à une princesse exigeante. Il ne parlait pas au valet de pied qui stationnait à la grille du quai, toujours ouverte pendant le jour. « Que veux-tu? Que dois-je faire ?» dit madame de San Esteban dans l'argot convenu entre la tante et le neveu. Comme on l'a déjà vu dans un drame dans les prisons, cet argot consistait à donner des terminaisons en « ar » ou en « or », en « al » ou en « i », de façon à défigurer les mots, soit français, soit d'argot, en les agrandissant. C'était le chiffre diplomatique appliqué au langage. Mais toutes les lettres en lieu sûr, prend les plus compromettantes pour chacune de ces dames, revient mise en voleuse dans la salle des pas perdus et attend-y mes ordres. Asie ou Jacqueline s'agenouilla, comme pour recevoir la bénédiction. Et le faux abbé bénit sa tante avec une componction évangélique. « Addio, Marquesa » dit-il à haute voix. Et ajouta-t-il en se servant de leur langage de convention. « Retrouve Europe et Paccard, avec les 750 000 francs qu'ils ont effarouchés. Il nous les faut. »« Paccard est là, » répondit la pieuse marquise, en montrant le chasseur les larmes aux yeux. Cette promptitude de compréhension arracha non seulement un sourire, mais encore un mouvement de surprise à cet homme qui ne pouvait être étonné que par sa tante. La fausse marquise se tourna vers les témoins de cette scène en femme habituée à se poser. Il est au désespoir de ne pouvoir aller aux obsèques de son enfant, dit-elle en mauvais français, car cette affreuse méprise de la justice a fait connaître le secret de ce saint homme. Moi, je vais assister à la messe mortuaire. Voici, monsieur, dit-elle à monsieur Go, en lui donnant une bourse pleine d'or. Voici, pour soulager les pauvres prisonniers. Quel chiquemar, lui dit à l'oreille son neveu satisfait. Jacques Collin suivit le surveillant qui le menait au préau. Bibi Lupin, au désespoir, avait fini par se faire voir d'un vrai gendarme, à qui, depuis le départ de Jacques Collin, il adressait des « hum » significatifs et qui vint le remplacer dans la chambre du condamné. Mais cet ennemi de Trompe-la-Mort ne put arriver assez à temps pour voir la grande dame qui disparut dans son brillant équipage et dont la voix, quoique déguisée, apportait à son oreille des sons rogomeux. « 300 balles pour les détenus !» disait le chef des surveillants en montrant à Bibi Lupin la bourse que M. Go avait remise à son greffier. « Montrez, M. Giacometti, » dit Bibi Lupin. Le chef de la police secrète prit la bourse, vida l'or dans sa main, l'examina attentivement. « C'est bien de l'or, » dit-il, « et la bourse est armoriée. Ah, le gredin, est-il fort, est-il complet? Il nous met tous dedans et à chaque instant. On devrait tirer sur lui comme sur un chien. « Qu'y a-t-il donc ? » demanda le greffier en reprenant la bourse. « Il y a que cette femme doit être une voleuse !» s'écria Bibi Lupin en frappant du pied avec rage sur la dalle extérieure du guichet. Ces mots produisirent une vive sensation parmi les spectateurs, groupés à une certaine distance de M. Samson, qui restait toujours debout, le dos appuyé contre le gros poêle, au centre de cette vaste salle voûtée, en attendant un ordre pour faire la toilette aux criminels et dresser l'échafaud sur la place de Grève. En se retrouvant au préau, Jacques Collin se dirigea vers ses amis, du pas que devait avoir un habitué du pré. « Qu'as-tu sur le casaquin ? » dit-il à la Pouraille. « Mon affaire est faite, » reprit l'assassin que Jacques Collin avait emmené dans un coin. « J'ai besoin maintenant d'un ami sûr. Et pourquoi ?» La Pouraille, après avoir raconté tous ses crimes à son chef, mais en argot, lui détailla l'assassinat et le vol commis chez les époux Crottat. « Tu as mon estime, » lui dit Jacques Collin. « C'est bien travaillé, mais tu me parais coupable d'une faute. Laquelle ? Une fois l'affaire faite, tu devais avoir un passeport russe, te déguiser en prince russe, acheter une belle voiture armoriée, aller déposer hardiment ton or chez un banquier, demander une lettre de crédit pour Hambourg, prendre la poste, accompagné d'un valet de chambre, d'une femme de chambre et de ta maîtresse habillée en princesse, puis à Hambourg, t'embarquer pour le Mexique, avec 280 000 francs en or. Un gaillard d'esprit doit faire ce qu'il veut et aller où il veut. Sinve. Ah, tu as de ces idées-là, parce que tu es le dab. Tu ne perds jamais la Sorbonne, toi. Mais moi, enfin, un bon conseil dans ta position, c'est du bouillon pour un mort, reprit Jacques Collin en jetant un regard fascinateur à son fanandel. C'est vrai, dit avec un air de doute la Pouraille. Donne-le-moi toujours ton bouillon. S'il ne me nourrit pas, je m'en ferai un bon bain de pied. Te voilà pris par la Cigogne, avec 5 vols qualifiés, 3 assassinats, dont le plus récent concerne 2 riches bourgeois. Les jurés n'aiment pas qu'on tue des bourgeois. Tu seras gerbé à la passe et tu n'as pas le moindre espoir. Ils m'ont tous dit cela, répondit piteusement la Pouraille. Ma tante Jacqueline, avec qui je viens d'avoir un petit bout de conversation en plein greffe, et qui est, tu le sais, la mère aux fanandelles, m'a dit que la Cigogne voulait se défaire de toi, tant elle te craignait. Mais, dit la Pouraille, avec une naïveté qui prouve combien les voleurs sont pénétrés du droit naturel de voler. Je suis riche à présent, que craignent-ils ? Nous n'avons pas le temps de faire de la philosophie, dit Jacques Collin. Revenons à ta situation. Que veux-tu faire de moi ? Demanda la Pouraille en interrompant son dab. Tu vas voir. Un chien mort vaut encore quelque chose. Pour les autres, dit la Pouraille. Je te prends dans mon jeu, répliqua Jacques Collin. C'est déjà quelque chose, dit l'assassin. Après, je ne te demande pas où est ton argent, mais ce que tu veux en faire. La Pouraille espionna l'œil impénétrable du dab, qui continua froidement. As-tu quelque largue que tu aimes, un enfant, un fanandel à protéger ? Je serai dehors dans 1 heure. Je pourrai tout pour ceux à qui tu veux du bien. » La Pouraille hésitait encore. Il restait au port d'armes de l'indécision. Jacques Collin fit alors avancer un dernier argument. « Ta part dans notre caisse est de 30 000 francs. La laisses-tu aux fanandelles ? La donnes-tu à quelqu'un ? Ta part est en sûreté. Je puis la remettre ce soir à qui tu veux la léguer. » L'assassin laissa échapper un mouvement de plaisir. « Je le tiens, » se dit Jacques Collin. « Mais ne flânons pas, réfléchis, » reprit-il en parlant à l'oreille de la Pouraille. « Mon vieux, nous n'avons pas 10 minutes à nous. Le procureur général va me demander, et je vais avoir une conférence avec lui. Je le tiens, cet homme. Je puis tordre le cou à la Cigogne. Je suis certain de sauver Madeleine. Si tu sauves Madeleine, mon bon dab, tu peux bien me... Ne perdons pas notre salive, dit Jacques Collin d'une voix brève. Fais ton testament. Eh bien, je voudrais donner l'argent à la Gonore, répondit la Pouraille d'un air piteux. Tiens, tu vis avec la veuve de Moïse, ce juif qui était à la tête des rouleurs du Midi, demanda Jacques Collin. Semblable aux grands généraux, Trompe-la-Mort connaissait admirablement bien le personnel de toutes les troupes. « C'est elle-même, » dit la Pouraille, excessivement flattée. « Jolie femme, » dit Jacques Collin, qui s'entendait admirablement à manœuvrer ces machines terribles. La largue est fine, elle a de grandes connaissances et beaucoup de probité. C'est une voleuse finie. Ah, tu t'es retrempée dans la gonore. C'est bête de se faire terrer quand on tient une pareille largue. Imbécile. Il fallait prendre un petit commerce honnête et vivoter. Et que goupine-t-elle? Elle est établie rue Sainte-Barbe. Elle gère une maison. Ainsi, tu l'institues ton héritière. Voilà, mon cher, où nous mènent ces gueuses-là quand on a la bêtise de les aimer. Oui, mais ne lui donne rien qu'après ma culbute. C'est sacré, dit Jacques Collin d'un ton sérieux. Rien aux fanandelles? Rien. Ils m'ont servi, répondit haineusement la Pouraille. Qui t'a vendu? Veux-tu que je te venge? Demanda vivement Jacques Collin, en essayant de réveiller le dernier sentiment qui fasse vibrer ses cœurs au moment suprême. Qui sait, mon vieux fanandel, si je ne pourrais pas, tout en te vengeant, faire ta paix avec la cigogne. Là, l'assassin regarda son dab d'un air hébété de bonheur. « Mais, répondit le dab à cette expression de physionomie parlante, je ne joue en ce moment la Miss Locke que pour Théodore. Après le succès de ce vaudeville, mon vieux, pour un de mes amis, car tu es des miens, toi, je suis capable de bien des choses. Si je te vois seulement faire ajourner la cérémonie de ce pauvre petit Théodore, tiens, je ferai tout ce que tu voudras. Mais c'est fait, je suis sûr de cromper sa sorbonne des griffes de la cigogne. Pour se désenflaquer, vois-tu, la Pouraille, il faut se donner la main les uns aux autres. On ne peut rien tout seul. C'est vrai, s'écria l'assassin. La confiance était si bien établie, et sa foi dans le dab si fanatique, que la Pouraille n'hésita plus. La Pouraille livra le secret de ses complices, ce secret si bien gardé jusqu'à présent. C'était tout ce que Jacques Collin voulait savoir. Voici la balle. Dans le poupon, Ruffard, l'agent de Bibi Lupin, était en tir avec moi et Godet. Arrache-laine ! S'écria Jacques Collin, en donnant à Ruffard son nom de voleur. C'est cela. Les gueux m'ont vendu, parce que je connais leur cachette et qu'ils ne connaissent pas la mienne. Tu graisses mes bottes, mon amour, dit Jacques Collin. Quoi ? Eh bien, répondit le dab, vois ce qu'on gagne à mettre en moi toute sa confiance. Maintenant, ta vengeance est un point de la partie que je joue. Je ne te demande pas de m'indiquer ta cachette. Tu me la diras au dernier moment. Mais dis-moi tout ce qui regarde Ruffard et Godet. Tu es, et tu seras toujours notre dab. Je n'aurai pas de secret pour toi, répliqua la Pouraille. Mon or est dans la profonde, la cave, de la maison à la gonore. Tu ne crains rien de ta largue? Ah, ouich! Elle ne sait rien de mon tripotage, reprit la Pouraille. J'ai saoulé la gonore, quoique ce soit une femme à ne rien dire, la tête dans la lunette. Mais t'endors? Oui, ça fait tourner le lait de la conscience la plus pure, répliqua Jacques Collin. J'ai donc pu travailler sans luisant sur moi. Toute la volaille dormait dans le poulailler. L'or est à trois pieds sous terre, derrière des bouteilles de vin. Et par-dessus, j'ai mis une couche de cailloux et de mortier. Bon, fit Jacques Collin. Et les cachettes des autres? Ruffard a son fade chez la gonore, dans la chambre de la pauvre femme qu'il tient par là, car elle peut devenir complice de recel et finir ses jours à Saint-Lazare. Ah, le gredin! Comme la raille, la police, vous forme un voleur, dit Jacques. Godet a mis son fade chez sa sœur, blanchisseuse de faim, une honnête fille, qui peut attraper 5 ans de l'or se fait sans s'en douter. Le fanandel a levé les carreaux du plancher, les a remis et a filé. Sais-tu ce que je veux de toi? Dit alors Jacques Collin, en jetant sur la Pouraille un regard magnétique. Quoi? Que tu prennes sur ton compte l'affaire de Madeleine. La Pouraille fit un singulier haut-le-corps, mais il se remit promptement en posture d'obéissance sous le regard fixe du dab. Eh bien, tu renâcles déjà, tu te mêles de mon jeu, Voyons, 4 assassinats ou 3, n'est-ce pas la même chose?
Peut-être.
Par le mec des fanandelles, tu es sans résiner dans les vermicelles, sans sang dans les veines. Et moi qui pensais à te sauver, et comment, imbécile, si l'on promet de rendre l'or à la famille, tu en seras quitte pour aller à la vioque au pré. Je ne donnerai pas une face de ta Sorbonne si l'on tenait l'argent. Mais en ce moment, tu vaux 700 000 francs, imbécile.
Dab, dab !
S'écria la Pouraille au comble du bonheur.
Et, reprit Jacques Collin, sans compter que nous rejetterons les assassinats sur Ruffard.
Du coup, Bibi Lupin est dégommé, je le tiens.
La Pouraille resta stupéfait de cette idée. Ses yeux s'agrandirent, il fut comme une statue.
Arrêté depuis 3 mois, à la veille de passer à la cour d'assises, conseillé par ses amis de la force, auxquels il n'avait pas parlé de ses complices, il était si bien sans espoir, après l'examen de ses crimes, que ce plan avait échappé à toutes ses intelligences enflaquées. Aussi, ce semblant d'espoir le rendit-il presque imbécile.
Ruffard et Godet ont-ils déjà fait la noce? Ont-ils fait prendre l'air à quelques-uns de leurs jaunets?
Demanda Jacques Collin.
Ils n'osent pas, répondit la Pouraille. Les gredins attendent que je sois fauché. C'est ce que m'a fait dire ma largue par la biffe quand elle est venue voir le biffon.
Eh bien, nous aurons leur fade dans 24 heures, s'écria Jacques Collin.
Les drôles ne pourront pas restituer comme toi. Tu seras blanc comme neige, et eux, rougis de tout le sang. Tu deviendras par mes soins un honnête garçon entraîné par eux. J'aurai ta fortune pour mettre des alibis dans tes autres procès. Et une fois auprès, car tu y retourneras, tu verras à t'évader. C'est une vilaine vie, mais c'est encore la vie.
Les yeux de la Pouraille annonçaient un délire intérieur.
Vieux, avec 700 000 francs, on a bien des cocardes,
disait Jacques Collin, en grisant d'espoir son fanandelle.
Dab, dab!
J'éblouirai le ministre de la Justice.
Ah, Ruffard la dansera. C'est une raille à démolir.
Bibi Lupin est frit.
Eh bien, c'est dit, s'écria la Pouraille avec une joie sauvage.
Ordonne, j'obéis.
Et il serra Jacques Collin dans ses bras, en laissant voir des larmes de joie dans ses yeux, tant il lui parut possible de sauver sa tête.
Ce n'est pas tout, dit Jacques Collin.
La cigogne a la digestion difficile, surtout en fait de redoublement de fièvre.
Révélation d'un nouveau fait à charge.
Maintenant, il s'agit de servir de belle une largue, de dénoncer à faux une femme.
Et comment?
À quoi bon? Demanda l'assassin.
Aide-moi, tu vas voir,
répondit Trompe-la-Mort.
Jacques Collin révéla brièvement à la Pouraille le secret du crime commis à Nanterre et lui fit apercevoir la nécessité d'avoir une femme qui consentirait à jouer le rôle qu'avait rempli la Ginetta. Puis il se dirigea vers le biffon, avec la Pouraille devenue joyeux.
« Je sais combien tu aimes la biffe, » dit Jacques Collin au biffon.
Le regard que jeta le biffon fut tout un poème horrible.
« Que fera-t-elle pendant que tu seras au pré ?»
Une larme mouilla les yeux féroces du biffon.
« Eh bien, si je te la fourrais, elle alors se fait des largues,
à la force des femmes, les Madelonnettes ou Saint-Lazare, pour 1 an, le temps de ton gerbement, jugement, de ton départ, de ton arrivée et de ton évasion.
Tu ne peux faire ce miracle, elle est nique de mèche, sans aucune complicité,
répondit l'amant de la biffe.
Ah, mon biffon, dit la Pouraille, notre dab est plus puissant que le meg.
Dieu.
Quel est ton mot de passe avec elle?
Demanda Jacques Collin au biffon, avec l'assurance d'un maître qui ne doit pas essuyer de refus.
Sors, Gapantin, nuit à Paris.
Avec ce mot, elle sait qu'on vient de ma part. Et si tu veux qu'elle t'obéisse, montre-lui une thune de 5 balles, pièce de 5 francs, et prononce ce mot-ci, fond bif.
Elle sera condamnée dans le gerbement de la Pouraille, et graciée pour révélation après 1 an d'ombre.
dit sentencieusement Jacques Collin en regardant la Pouraille. La Pouraille comprit le plan de son dab et lui promit, par un seul regard, de décider le Biffon à y coopérer en obtenant de la Biffe cette fausse complicité dans le crime dont il allait se charger. « Adieu, mes enfants. Vous apprendrez bientôt que j'ai sauvé mon petit des mains de Charlot, » dit Trompe-la-Mort. « Oui, Charlot était au greffe avec ses soubrettes pour faire la toilette à Madeleine. « Tenez, dit-il, on vient me chercher de la part du dab de la Cigogne, du procureur général. » En effet, un surveillant sorti du guichet fit signe à cet homme extraordinaire, à qui le danger du jeune Corse avait rendu cette sauvage puissance avec laquelle il savait lutter contre la société. Il n'est pas sans intérêt de faire observer qu'au moment où le corps de Lucien lui fut ravi, Jacques Collin s'était décidé, par une résolution suprême, à tenter une dernière incarnation, non plus avec une créature, mais avec une chose. Il avait enfin pris le parti fatal que prit Napoléon sur la chaloupe qui le conduisait vers le Bellérophon. Par un concours bizarre de circonstances, tout aida ce génie du mal et de la corruption dans son entreprise.